Lorsque je prévoyais de venir ici, je prévoyais de vous parler du cycle de la grâce de Dieu, de l'eau que Dieu fait descendre depuis le haut des montagnes et qui filtre jusqu'en bas de la mer et qui retourne par évaporation au ciel. Et c'était la parole d'Ésaïe qui disait « Ma parole ne revient pas à moi sans qu'elle ait produit son effet ». J'étais poussé à le dire, et cette semaine, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le Seigneur me dit, « Non, tu ne parleras pas de ça. » Oh, je dis, « Seigneur, arrête. » Et le Seigneur me dit, « Parle des dons de l'Esprit. » Oh, je dis, « Mais lequel ?» Parce qu'il y en a combien de dons de l'Esprit ? Est-ce que vous vous rappelez le verset de 1 Corinthiens ? Allez. Est-ce que j'ai besoin de quelques lecteurs ici ? Alors, j'ai besoin facilement de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lecteurs. Vous avez vos Bibles ? Alors, qui veut lire 1 Corinthiens 12, 8 à 10 ? Il y en a un qui prépare aussi Jacques 1, 17. Mais 1 Corinthiens 12 d'abord. Si le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament se manifestait de manière, je dirais, occasionnelle. On l'a vu souvent hein, sur les prophètes, sur Moïse, etc. C'était assez sélectif. Le Saint-Esprit parlait à une personne. Puis c'était temporaire, puisque Dieu résidait dans la tente d'assignation, ou dans le temple de Salomon, qui n'arrêtait pas d'être détruit. Et quand Jésus est arrivé et que le voile s'est déchiré, heureusement qu'il s'est déchiré, puisque de nouveau, maintenant, le temple devenait notre corps. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est devenu permanent. Bien. Alors ça, c'est une bonne chose. Et Paul dit, l'Esprit vous donne des choses. Donc d'où viennent ces dons ? Ils viennent de l'Esprit. On dirait que nous ne sommes pas suffisants. On dirait que pour la recette de cuisine, c'est-à-dire que pour faire une omelette, il faut un œuf, donc il faut un élément. Mais le Seigneur nous fait faire des recettes où il ne faut pas qu'un œuf. Pour que le Seigneur nous amène à propager l'Évangile et pour que le Seigneur nous amène à conduire, je dirais, conduire l'Église et dont Jésus est la tête, il a dit, vous avez besoin de plus que vous-même. Vous avez besoin d'autres éléments pour faire la recette. Donc, si ces éléments ne sont pas dans la recette est différente. On n'arrive pas au même résultat. Je trouve quand même incroyable que Paul ait vu ça. Et moi, je pense personnellement que quand Paul a été ravi au ciel et que Dieu lui a donné tout ce que d'abord les disciples ont vu, parce que Paul n'avait pas vu ce que les disciples ont vu, donc Dieu lui a dit, je vais t'expliquer ce qui s'est passé avant, parce qu'avant tu étais en train de faire des bêtises, donc maintenant il faut que je te mette un peu à jour. Et je pense que Paul a eu des révélations. Et Dieu lui a montré certaines choses. C'est pour ça que Paul, il dit, par exemple, il raconte la Sainte Cène. Le Christ, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. C'est Paul qui le raconte. Comment il peut raconter une chose pareille alors qu'il n'y était pas ? Bien sûr que les disciples ont pu lui raconter, mais vous savez qu'entre Paul et les disciples, il n'y avait pas eu tout de suite une belle collaboration. Donc, on peut se dire que Dieu lui a dit, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, comment j'ai fait mourir mon fils. Et donc, l'Esprit, Paul dit, vous ne pouvez rien faire sans les dons de l'Esprit. Et que ce soit dans notre communauté, l'Église de Christ ne peut pas croître sans les dons de l'Esprit. Ou, enfin, si elle peut croître. Mais en fait, ça, on devient des associations caritatives. Des lois de 1901. on devient des services d'urgence hospitaliers. On fait du bien. Moi, je fais à manger à midi pour les jeunes, puis l'après-midi, j'ai la chorale, ben, je leur fais à manger. Ce n'est pas un don de l'esprit, ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je dirige la chorale. Ce n'est pas un don de l'esprit. C'est une capacité. Je donne toute ma vie pour l'Église. Ce n'est pas un don de l'esprit, ça. Je fais de l'associatif. Qu'est-ce qui caractérise l'Église, corps de Christ ? C'est celle qui est mue par les dons de l'Esprit. Et le don de l'Esprit dont on veut se délecter ce matin, c'est le don de connaissance. Parce que si on devait commencer à parler de tous les 9 dons, on n'aurait pas fini. Et ce qui se passe, c'est que comment est-ce que on peut recevoir ce don de connaissance. Jacques, qui a trouvé Jacques 1, 17 ? Après, j'aurais besoin de quelqu'un qui lise Daniel 2, 9. Donc, le don vient de l'esprit. Tout don parfait vient de l'esprit. Comme ça, c'est clair. Ce qui veut dire que tous, vous pouvez l'avoir. C'est ça que ça veut dire. La source est universel. Vous ne pouvez pas commencer à dire « Ouais, mais pour moi, je suis exclu de ça. » C'est faux. Dieu va proposer ce don. Et qu'est-ce que Paul dit de l'autre côté de l'échiquier ? De notre côté, qu'est-ce qu'il dit ? Aspirez aux dons les meilleurs. C'est comme l'histoire de la cuisine. Je veux faire une recette, je vais prendre les ingrédients. Donc, c'est-à-dire que la recette ne se fait pas toute seule. Les dons sont là, mais il faut aspirer à ces dons-là. C'est comme s'il y avait une espèce de binôme qui s'installe et que Paul, finalement, nous explique que ça ne va pas nous venir dessus. Il faut y aspirer. Et je dois dire que des fois, je ne crois pas en moi et alors j'y aspire pas. Je me dis, non, mais je vais être nul. Je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, Satan dit, tu n'es pas capable. Et Dieu dit, bah, c'est normal que vous n'êtes pas capable. Vous êtes des créatures. Vous venez d'oublier que c'est l'Esprit qui vous le donne. C'est l'Esprit qui parle en vous. Vous êtes le temple. Vous n'existez quasi plus en tant que nature mortelle lorsque vous exercez le don. Et c'est là où on est rendu capable. Alors, Daniel 2, 9. Alors là, on commence à parler du don de connaissance. Daniel, il est un prophète. Daniel, alors c'est vrai qu'il est assez érudit, Daniel, hein, c'est quelqu'un de la haute. Il siège un petit peu avec Nebuchadnezzar, avec l'équipe des ministres, etc. Donc c'est quelqu'un, je dirais, de cultivé. Il connaît, il parle l'hébreu, le babylonien, tout ça. Mais est-ce que ce sont ces capacités-là qui lui confèrent la possibilité de deviner le rêve de Nebuchadnezzar ? Vous allez me dire non. Nebuchadnezzar dit, dis donc Daniel, j'ai fait un rêve, je voudrais te dire mon rêve et tu vas me l'expliquer, mais non, je ne vais même pas te dire mon rêve, tu vas me dire ce que j'ai rêvé. Comment un être humain peut obtenir cette information ? Et donc, on voit bien que Daniel a reçu une connaissance. Et il ne faut pas se voiler la face, nous sommes amenés à avoir cette même connaissance. Elle est là, l'exhortation de ce matin. L'encouragement pour nous, ce matin, c'est de se dire que Daniel n'est pas tout seul. C'est quand même un tout petit peu violent, ce que je dis. Ça voudrait dire que si Nebuchadnezzar venait vers vous, vous seriez en mesure de... vous seriez. Pourquoi ? Parce que si vous aviez la vie de Daniel, une vie de piété dans le sens piété non pas religieuse, mais vous connaissez Dieu, vous vous adressez à Dieu, vous allez pouvoir être le temple dans lequel se manifeste l'Esprit de Dieu. Ne vous inquiétez pas, ne changez pas vos corps, ne changez pas vos caractères, ne changez pas ce que vous savez, ne changez pas vos personnalités. Ça, le Seigneur, il sait déjà tout de votre caractéristique. Il ne va pas utiliser ces caractéristiques. Ce qu'il va utiliser, c'est votre temple, votre fonction de fils de Dieu. C'est comme si vous vous éleviez au statut d'enfant racheté. Puisque la nature corporelle est une nature vendue. Votre nature ne peut pas déceler les mystères de Dieu. C'est impossible. Enfin, vous pouvez essayer. Il y a les psychologues qui sont très bons pour ça. Par exemple, il y a une dizaine d'années, j'ai presque fait un burn-out professionnel. Je m'étais donné corps et âme et j'ai été voir un psychologue. J'ai dû tout lui dire pour qu'elle me redise. Alors, elle l'a dit dans d'autres mots que moi. N'empêche que c'est pas ça qui a changé ma vie. Ce qui a changé ma vie au jour, le moment du burn-out, c'est Dieu. Je vais vous expliquer. J'étais en train de faire un burn-out dans le sens où, je ne sais pas si vous avez peut-être eu un burn-out, vous avez expérimenté ça. Le burn-out, c'est lorsque on essaye de faire quelque chose, et bon, dans le cadre du travail, par exemple, parce que dans le cadre du travail, on est obligé de se conformer à quelque chose. Et j'étais cadre, j'étais responsable, j'avais des grosses responsabilités, il fallait que je fasse rentrer un rond dans un carré. Et à un moment donné, je me disais que ça ne rentrerait pas, et j'avais une date fatidique. Et je dis, mais Seigneur, ça ne va pas rentrer, je n'ai pas le temps. Le projet n'est pas faisable. J'étais payé pour ce projet, donc j'avais une dichotomie qui faisait que je ne résolvais pas, je n'y arrivais pas. J'allais me faire virer. Alors, le premier psychologue que j'ai eu, c'est Dieu. Et j'ai dit, Dieu, je me levais à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin, et je pensais à ce que je pouvais faire. Ce que je pouvais faire, ce que je pouvais faire. Et au bout d'un moment, j'ai pensé à Gethsémané. Et Jésus, à un moment donné, il dit, Seigneur, je n'y arrive plus. Si tu peux éloigner de moi cette coupe. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas dit j'y arrive plus, j'ai pas fait les mots de Jésus parce que j'en étais pas au point de la souffrance de Jésus, qui est incomparable. Mais j'ai dit, Seigneur, je voudrais juste que tu me sortes de là. Je ne peux pas boire cette coupe. J'y arrive pas. Seigneur, sors-moi de là. Le lendemain, 6 heures plus tard, je reçois un coup de fil de la direction qui dit, Charles, on arrête le projet. On arrête. Et moi, dans mon humanité, je voulais dire, mais non, mais on continue. Bête comme je suis. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'étais tellement surpris. Et vous voyez comment dire. Ensuite, j'ai été voir le psychologue. Mais en fait, le vrai psychologue, c'est Dieu qui m'a sorti de là. Le psychologue va certainement avoir une parole de connaissance. Mais Dieu maîtrise les mystères. Dieu prend toutes les situations et il les a sous son contrôle et c'est lui qui manie comme ça et c'est lui qui vient te délivrer. C'est lui qui manie quand David consultait l'Éternel. C'est Dieu qui faisait que les Philistins partaient à droite ou à gauche. Et c'est Dieu qui, sachant comment faire avec les Philistins, disait à David, va les prendre par la droite. Et puis 15 jours après, non mais va maintenant, prends-les par la gauche. C'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui inspire et c'est Dieu qui donne. Donc oui, j'aime beaucoup les psychologues dans leurs paroles de... C'est des paroles humaines. C'est une approche où on... C'est les mêmes mots que j'ai dit, moi, que je me sentais mal, que j'avais un besoin, que j'avais le besoin de ne plus être oppressé. Je racontais des choses humaines. Mais en fait, la personne qui a vraiment eu les paroles miraculeuses, c'est Dieu. C'est lui qui m'a sorti de là. Alors, la parole de connaissance, elle apporte ceci dans vos vies. Elle vous fait comprendre les mystères de Dieu. J'ai compris que Dieu a bougé, non pas mon travail et mon intelligence, il a été à la source et il a écarté les sources de mon mal. Ça, c'est un mystère. Et la parole de connaissance, c'est que Dieu nous révèle des mystères. Alors là, pour le coup, ce n'était pas une parole de connaissance, c'était que j'ai demandé à Dieu et qu'il lui connaissait où était la source. Ici, ce que veut dire Paul, c'est qu'on a besoin, l'Esprit donne la parole de connaissance pour comprendre les mystères cachés de Dieu. Et c'est important de se dire que notre vie et la vie de l'Église ne peut pas continuer normalement si, à tout moment, Dieu ne nous révèle pas les mystères. Et il faut des membres de l'Église qui aient ces paroles de connaissance. Sinon, on reste une association. On reste une association caritative qui résolvons 2-3 problèmes qui nous arrivent. Mais comme on va le voir, Paul nous dit, vous avez besoin d'utiliser cette connaissance. Par exemple, qui veut lire Acte 10, verset 3 ? Vous vous rappelez de Corneille et de Pierre ? C'est un exemple extrêmement intéressant. Le don de connaissance, c'est ça. Ce n'est pas le psychologue qui va dire « Je sens que vous êtes un petit peu stressé. » Non, 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 non. Le don de connaissance, c'est des choses que nous ne savons pas, qui nous sont révélées. D'accord ? Allez, Acte 10, verset 17. Parce que là, en fait, Corneille, il a l'instruction du Saint-Esprit d'aller voir Pierre. Donc maintenant, on va voir de l'autre côté si ça colle. Qu'est-ce qui se passe au verset 17 ? On voit bien que lorsqu'une parole de connaissance est donnée, elle est confirmée. C'est ça la grâce de Dieu. C'est que Dieu sait très bien que des fois, ça c'est mon interprétation personnelle, on peut donner une parole de connaissance mais on n'est pas sûr. Mais la grâce de Dieu fait que si vous demandez, je l'ai fait souvent ça, si Seigneur, j'ai une parole de connaissance mais fais-la dire par quelqu'un d'autre. Comme ça, je ne me ridiculise pas si c'est faux. Mais, d'accord, mais en beaucoup plus sérieusement, l'exhortation de ce matin, c'est lorsque vous avez une parole de connaissance, dites-la et priez le Seigneur pour qu'elle soit confirmée par quelqu'un d'autre. Puisqu'elle vient du même esprit. Puisque là, il y a l'esprit qui parle à deux entités différentes. Je trouve grandiose que Paul nous raconte toutes ces choses et que dans les actes, il se soit passé autant de choses. Et donc, le don de connaissance dont nous avons besoin, c'est pour quoi faire ? Est-ce que c'est pour faire que, genre, moi, j'ai pu donner une parole de connaissance ? Eh bien non. Eh bien non. C'est pour avertir d'un danger. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas une œuvre caritative seulement. C'est que le Seigneur va dire, écoutez, je reviens bientôt, ça va être chaud. Vous allez souffrir. Vous allez passé des moments de turbulence. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Là où vous allez continuer le dur et étroit chemin d'une église de Christ, je vous avertirai. C'est ça que ça veut dire. En d'autres termes, papa et maman déménagent d'une maison. Dieu va nous faire déménager de la terre jusqu'au ciel. Comme papa et maman déménagent, décident de déménager, quand ils déménagent, est-ce qu'ils laissent le reste de la famille dans l'ancienne maison ? Non. C'est le même tonneau. Dieu va dire, je vais déménager, je vous fais des nouveaux cieux, une nouvelle terre, je vous prends avec moi. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, vous devez venir avec moi, vous devez être mes enfants, vous devez être sur le livret de famille. Et à ce moment-là, il va tout faire pour que vous veniez avec lui, et il va vous avertir. Autre exemple. On sait, il y a plusieurs hypothèses qui prouvent que Jésus va revenir dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans, et vous en avez vu combien comme ça, des vidéos sur YouTube, qu'il y a des gens qui vous disent que c'est après-demain, hein ? Et puis ils vous l'expliquent, hein. Puis ils ont oublié le verset qui dit qu'on ne saurait jamais. Je ne sais pas pourquoi celui-là, ils ne le lisent pas comme verset. Mais c'est un peu drôle. Et en fait, Dieu dit, si je vous cache ça, je vais vous révéler autre chose. Ça, laissez-le cacher. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas important. C'est comme les enfants, ce n'est pas important qu'ils sachent la date du déménagement, s'ils savent qu'ils s'en vont avec. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Enfin, soyons un peu sérieux. C'est pas ça le deal. Le deal, c'est lorsque Dieu nous donne une parole de connaissance, c'est pour nous éviter un danger, pour que nous restions attachés. Ma grand-mère me montrait comment on faisait paître les brebis. Je suis d'origine italienne. Enfin, mes parents étaient italiens et je suis né ici dans la région. Mais mes parents étaient italiens et je retournais dans le sud de l'Italie. Et ma grand-mère mettait un enclos et elle me disait, tu vois cet arbre qui se trouve là de l'autre côté de l'enclos ? Il ne faut surtout pas que les brebis elles mangent parce que ça leur fait gonfler le ventre et elles explosent. Ah ? Et je lui dis, mais pourquoi tu mets l'enclos aussi près de l'arbre ? Ah non, si elles restent dans l'enclos, elles ne peuvent pas aller vers l'arbre. Donc Dieu ne va pas nous éviter l'adversité. Il va dire, vous restez juste dans l'enclos. Je vous donne la connaissance pour rester dans l'enclos. Je vous donne la connaissance pour vous dire, non. Là, tu es en train de passer la barrière. Ce qui se passe, c'est que Le don de connaissance est indispensable. Si on prend par exemple Acte 23, quelqu'un peut lire Acte 23, verset 11, et une autre personne cherche 2 Rois 5, 26. Acte 23, 11, 2 Rois 5, 26. Donc ce n'est pas Paul qui a décidé d'aller à Rome. Hein. On peut croire ce qu'on veut. Que Paul, c'était un manager, que c'était un, il avait de l'initiative. Paul, il était super intelligent. C'était un HP, HPI. Mais ça, il savait pas. C'est Dieu. C'est comme rejoins-nous en Macédoine, le rêve de Paul quand il était sur l'île. Vous voyez? Aussi intelligent qu'on puisse être, le Seigneur a besoin de personnes, et pas tout le monde doit avoir ce don de connaissance. Pas tout le monde, puisqu'il y en a 9, donc il faut quand même les répartir un peu partout. Vous ne pouvez pas marcher sur les traces de Christ sans avoir ce don de connaissance. Sinon, on reste une association caritative. Ce n'est pas possible. Il y a des choses cachées qui sont révélées que à l'Église de Christ. Ce n'est pas révélé aux hôpitaux et aux urgences ou aux associations qui aident les sans-abri. C'est pas réservé à eux, c'est réservé à l'Église de Christ. Attention, il va se passer ça. Et je veux que tu le saches parce que je te protège. Ceci va te protéger parce que je veux que tu restes à moi. Vous voyez ? Et ma grand-mère, elle mettait l'enclos juste pour pas qu'ils aillent manger l'arbre. Je trouvais quand même que l'arbre, il était prêt. Hein. Mais c'est vrai que si les brebis ne passaient pas l'enclos, il n'y avait aucun risque. Donc, moi, j'aurais cru que ma grand-mère, elle abatte l'arbre. Eh ben non. C'est quand même dingue. Pourquoi on n'abat pas l'arbre? Si tu aimes Dieu, si tu aimes ta création, mais pourquoi tu n'enlèves pas le mal? Non, c'est pas ça le deal. On se trompe de sujet. C'est reste attaché à moi et il se passera rien. Alors, il se passera rien, c'est pas une bonne phrase. Il se passera ce que moi je décide pour toi. Vous voyez? Alors, en dernier, pourquoi ce don? Ah oui, il y a 2 Rois 5, 26. Qui a vu 2 Rois 5, 26? Alors, tu peux continuer juste un poil.
La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. Géasi quitta Élisée à ta lèpre blanche comme la neige.
Voilà. Donc, Dieu va révéler ses mystères, va révéler ce qu'il va faire. Et comment voulez-vous que Élisée puisse imaginer une chose pareille? C'est pas possible. C'est pour ça que si votre église, alors vous avez votre corps qui est le temple, vous êtes votre propre église, vous avez l'église de la famille, vous dirigez votre famille, votre foyer ou votre groupe d'influence direct, d'accord, comme une église où vous avez aussi besoin de la connaissance de Dieu pour diriger votre famille. Et si on élargit le cercle, l'église, donc, comme Jésus dit dans Jean 15, je suis le chef de l'Église, c'est l'Ecclésia. Vous ne pouvez pas avancer sans que moi je vous révèle des choses. Et on n'est pas dans un escape game où on est en train d'essayer de voir, de deviner et puis de trouver les codes. Non, 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 Dieu nous les révèle. Il y a une simplicité dans la complication. Plus c'est compliqué, plus Dieu va nous dire « Vous avez besoin de ces dons. » N'allez pas chercher des cadres d'entreprise pour gérer l'Église. Je suis cadre d'entreprise. Je n'utilise aucune méthode pour gérer l'Église. La méthode, c'est comme ça. Et Seigneur, s'il te plaît. Et des fois, le jeudi soir, par exemple, je me mets au piano, réunion de prière, on l'appelle ça chambre haute, et je commence à jouer un petit cantique, voilà, t'as dit, et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire? Et le Seigneur a prévu de parler, puisqu'on a dit que tout don vient du Saint-Esprit, et que lorsqu'on aspire à ces dons, le Seigneur remplit sa fonction de dire ben, « je vais vous le donner puisque vous y aspirez ». Et on chante, et on se bénit, etc. Et tout d'un coup, il y a une parole de connaissance. Alors, les exemples qu'on a vus aujourd'hui, c'est des exemples extrêmement Enfin, on les a, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vécu comme ça. D'accord. Mais je crois que dans les derniers temps, comme le dit le prophète Joël, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Et je pense qu'il est temps de se dire que le monde est en train de devenir plus compliqué. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur n'a pas dit que nous allions être dans une plus mauvaise passe que lorsque, je ne sais pas moi, dans les années 60, 70, où il y avait un petit peu moins de troubles. Ce n'est pas plus compliqué. Le Seigneur a dit, Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses à s'accomplir, vous levez la tête. Il n'a pas dit, oh là là, moi, comment je vous plains. Il n'a pas dit ça, vous voyez. Et mon exhortation pour ce matin, et je vais terminer là, c'est comment obtenir ce don indispensable. Comment recevoir la pensée de Dieu, la pensée de Dieu. Comment est-ce qu'on le reconnaît ? Eh bien, le Seigneur nous dit, mes brebis me reconnaissent, elles entendent ma voix. Et si vous aviez les yeux bandés et que vous suiviez une ligne, et que quelqu'un vous dit, va, mets un pas devant toi. Et puis, si, par exemple, la ligne va à gauche, on arrive au moment où ça va à gauche, et la personne nous dit, va à gauche. On reconnaît la voix et on fait ce que la voix dit. Il y a des fois où tu ne sais pas que Dieu est en train de te parler parce que tu n'as pas l'habitude de l'entendre. Et mon exhortation ce matin, c'est ça. C'est que si tu te trouves dans une situation où tu te sens incapable d'écouter la voix de Dieu, c'est probablement parce que tu n'as pas encore assez l'habitude du son de Dieu. Parce que Dieu parle. Dieu s'adresse toutes les minutes à sa création. Alors je vais prier. Parce que des fois, Satan se déguise en Dieu qui parle. Et maintenant, je vais dire aux parents, vous savez très bien que lorsque vous allez chercher vos enfants à l'école, il y a un brouhaha énorme, mais comment ça se fait que l'enfant, il entend votre voix ? L'enfant, il est dans un tumulte avec tous les autres enfants. Et le temps est de sortir des classes et de venir vers les parents. Les parents n'ont qu'à faire « c'est moi » ou on l'appelle par le nom, l'enfant. Je ne sais pas comment il fait l'enfant, mais au milieu du brouhaha, il entend. Vous allez m'expliquer ça ? Eh bien, au milieu du brouhaha, Dieu nous a dit « je vous envoie par l'esprit la connaissance, vous me reconnaissez. » On prie ? On prie pour que se lèvent parmi vous des personnes que Dieu aura choisies non pas pour des compétences professionnelles ou des aptitudes, mais pour que Dieu choisisse parmi vous à qui il va donner cette connaissance. Parce que Christ a dit, vous ne pouvez pas conduire l'Église sans ça. Alors, je suis désolé, j'étais poussé à le dire ce matin. Seigneur, je te demande que tu puisses continuer de bénir ton Église. Je te demande que nous puissions reconnaître ta voix, car tu as prévu de nous donner et révéler tes mystères. Et nous sommes tous tes enfants. Et tu as prévu de donner cela à tes enfants. Et je te rends grâce que dans cette église, tous ceux qui se sont levés ce matin sont venus de plein gré écouter ta parole. Et tous mes frères et sœurs ici pouvaient très bien rester au lit ce matin. Mais ils ont fait le choix et ils ont pris la bonne décision, c'est de venir t'adorer. Alors je te demande, Seigneur, je ne peux pas imposer les mains à tout le monde, Seigneur, mais toi tu imposes tes mains sur chacun maintenant et tu visites chacun. Et choisis à qui tu donnes le don de connaissance, choisis à qui tu donnes le don de sagesse. Choisis à qui tu donnes le don de prophétie, à qui tu donnes le don de pouvoir faire des miracles, le don de guérison, les dons de 1 Corinthiens 12, Seigneur, tu nous les as promis. Et c'est comme si tu disais, vous ne pouvez pas avancer sans ça. Seigneur, je te demande une chose, c'est que tu as dit qu'on devait y aspirer. Alors, qu'est-ce que c'est, Seigneur, d'y aspirer ? Montre-nous. Qu'est-ce que c'est que d'aspirer à ces dons ? Est-ce que j'aspire, Seigneur, à ce don ? Peut-être pas. Peut-être que j'ai oublié d'aspirer. Seigneur, fais-nous grâce de pouvoir aspirer à ces dons. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. On chante ce petit chant. Je ne l'avais pas prévu dans la liste. Sonde-moi, ô Dieu. Vous connaissez ? Voilà. Je ne sais pas si on arrive à projeter les paroles. Et puis après, je voulais vous chanter le psaume 116. Ça va ? On est un petit peu loin au niveau du timing. On est bon ? J'ai un peu peur. Tout d'un coup, j'ai eu une angoisse. Il fallait que j'aille voir le... J'ai pas été voir le psy. Sonde-moi, ô Dieu, c'est de Dan Lutten. Je ne sais pas si tu l'as. Sinon, on y va comme ça, un peu à la fraîche. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Pour l'éternité. Que Seigneur nous bénisse. Que Seigneur nous bénisse.